Alors, le sujet cet après-midi, c'est pourquoi y a-t-il, pourquoi doit-il y avoir une révolution judiciaire climatique ? Ben, elle est pour moi, ben, ce n'est pas une allusion politique, n'est-ce pas ? Elle est incontestablement en marche. D'abord, il faut se mettre d'accord sur les termes du sujet. Qu'est-ce que le contentieux climatique ? Et puis, en quoi est-il révolutionnaire ? Qu'est-ce que le contentieux climatique ? Il faut comprendre que dans le langage du droit international, dans les prévisions des accords de Paris, enfin théoriquement, la justice climatique, c'est le rétablissement de l'équilibre nord-sud. Il n'y a pas les instruments pour faire ça. Et en l'absence, en réalité, de direction et surtout de dispositions relativement contraignantes, quelle que soit la qualité de l'accord de Paris, je ne le mets pas en cause, mais il y a un vide juridique à combler, parce que le droit international est effectivement en retard et relativement impuissant à résoudre effectivement ce nouveau challenge qu'est le contexte climatique. Il faut bien comprendre quelque chose de simple. Nous ne sommes plus actuellement dans la période classique du droit de l'environnement, qui parlait de qualité de la vie et qui parlait, d'atteinte par la pollution, etc. Nous sommes à l'ère de l'anthropocène. On a changé. On a les instruments du droit de l'environnement classique, ceux qui datent d'une quarantaine d'années, et on se trouve confronté à quelque chose qui est global. Et théoriquement, le juge, il est fait pour quoi ? S'il n'y a pas de juge international, il y a un juge national. Le juge national, il est conditionné tout simplement par la règle des trois unités : unité de temps, de lieu et d'action. Et donc, comment peut-il, c'est le mystère, comment peut-il avoir l'audace de statuer pour le futur et sur le global, à proprement parler ? Ça n'est pas sa vocation de base. Donc, il faut qu'il se transforme complètement. Et alors, nous assistons actuellement à un développement de la justice climatique qui est très important dans chaque État du monde, pratiquement, mais à la fois important en quantité et en qualité. En quantité, je regardais un article qui va paraître de Christelle Courny, qui est une grande spécialiste de la question. Elle nous dit dans cet article que d'après ce qu'elle a recensé depuis mai 2017, il y aurait eu environ 700 décisions de justice en matière de contentieux climatique, dont proche de 500 aux États-Unis, beaucoup en Australie, c'est-à-dire dans les pays anglo-saxons, où effectivement l'accès au juge est assez naturel à proprement parler. Et au passage, le contentieux climatique aux États-Unis, que j'ai étudié en détail, il va dans un sens négatif, c'est-à-dire parce qu'avant que le président Trump enlève le Clean Air Act, etc., pratiquement, les juges, et notamment la Cour suprême, avaient fait ce qu'il fallait aussi pour limiter la situation. Donc le contentieux climatique américain est assez ambigu. Mais ce qui est très intéressant aussi dans ce contentieux climatique, ce n'est pas du tout la quantité à proprement parler. On n'a pas comptabilisé forcément les décisions de rejet ou les décisions d'admission. Et ce qui est très intéressant, c'est l'axe que prend ce contentieux climatique. Il y a trois axes. Le premier axe est préventif, c'est-à-dire d'instiller dans des projets locaux à proprement parler la vision du futur. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'étude d'impact en France intègre la préoccupation climatique. Je crois que c'est le décret du 8 août 2016 qui l'a prévu. D'ailleurs, quand on regardera dans le contenu des études d'impact, on pourra s'interroger sur l'intérêt et l'effectivité, effectivement, de cette recommandation. Mais vous avez des quantités de décisions qui sont très intéressantes sur le contentieux climatique. Vous avez des décisions en Afrique du Sud où, effectivement, on a refusé d'autoriser une activité tant que l'étude d'impact sur le réchauffement climatique n'était pas faite. Vous avez l'arrêt de la Cour d'un tribunal administratif en Autriche sur l'aéroport de Vienne. Vous avez un contentieux aussi sur le... très équilibré, la décision du juge autrichien. Bilan coût-avantage, la circulation, et puis les intérêts à court terme et long terme, etc. C'est un vrai contentieux du bilan. La décision est passionnante. Et puis vous avez aussi le contentieux norvégien qui est en cours. La presse s'en fait état encore ces jours-ci. Le contentieux norvégien, c'est les recours contre les exploitations de plateformes dans la mer de Barents. Donc, vous avez un contentieux préventif qui s'apparente un peu au contentieux administratif. La deuxième contentieux qui est le plus développé, c'est la responsabilité des États. Alors, effectivement, vous avez deux variantes. Vous avez l'annulation des décisions et puis et également la possibilité, si j'ose dire, pour le juge de se substituer à l'administration au législateur. Les recours en annulation, si j'ose dire, enfin pour carence plus exactement, sont anciens. Le plus important, c'est l'affaire de Massachusetts aux États-Unis. Je vous en parlerai plus en détail. En fait, en réalité, il s'agissait pour l'État des Massachusetts d'obliger l'établissement public de l'environnement, qui n'est pas un ministère, de prendre des dispositions sur la protection de l'atmosphère. C'est un recours en carence et le juge est allé, dans une décision du 11 avril 2007, vraiment aller très loin, sauf à donner des injonctions directes à l'administration. Ça, c'est quelque chose qui bloque. On en reparlera dans un instant. La chose la plus classique, c'est Urgenda. Tout le monde connaît l'affaire Urgenda, l'obligation, à la suite d'un long contentieux, l'affaire est en appel, bien entendu, l'obligation pour l'État hollandais de diminuer de 25%, c'est pratiquement ses rejets. Alors, et vous avez une dernière chose, et moi j'y croyais pas, mais il y a des choses qui arrivent actuellement. Le dernier contentieux, c'est la responsabilité des entreprises. On va en parler un peu plus en détail dans le développé. Parce que autant on peut imaginer ce qu'on a besoin comme élément de preuve pour faire condamner un État, pour lui dire vous n'êtes pas suffisamment actif, autant c'est difficile d'aller dire que telle émission à tel endroit est responsable de tel effet à un autre endroit déterminé. Le contentieux de la preuve, à peu près, n'est pas du tout la même chose dans le contentieux, si j'ose dire, de responsabilité en carence, ou du contentieux dans lequel certaines personnes, effectivement, désirent obtenir des dommages et intérêts à cause d'une attitude d'une entreprise qui lui crée des dommages. L'affaire la plus connue, qui est récente, l'arrêt a été rendu le 13 novembre dernier par la cour d'appel de Hamm, en Allemagne. C'est un agriculteur péruvien qui voit son glacier au-dessus de son village fondre, qui craint une inondation. Il a consulté un rapport dont je parlerai très rapidement, qui est un rapport américain qui s'appelle le rapport E2, comme je prononce très mal, ça s'écrit H-E-E-D-E. Et c'est un rapport passionnant, je dirai un mot tout à l'heure, qui permet de déterminer que l'entreprise RWE serait responsable de 0,47% du réchauffement climatique. Alors, s'il fait un contentieux classique en dommages et intérêts, il devrait demander 0,47% de son indemnité. Mais ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il faut m'expliquer que ces 0,47% se réfugient sur ce point précis. D'où la difficulté du sujet. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, il faut regarder ces décisions des États, décisions qui sont personnes, les États qui sont saisis par des personnes, des associations, même des États membres, quand c'est un État fédéral. Mais il ne faut pas oublier non plus, ce n'est pas inintéressant, tout ce qui tourne autour du contentieux communautaire, parce qu'il y a du droit climatique dans le contentieux communautaire pour l'application des quotas, etc. Et vous avez des recours de plus en plus importants qui dérivent du droit de l'environnement, qui est le contentieux des réfugiés climatiques. Ce sont des choses très importantes, des décisions en Australie en particulier. Et puis, il ne faut pas négliger aussi l'intérêt et l'importance. Il faut surveiller ce que va dire la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour internationale de justice, si un jour elles sont saisies sur ces sujets-là. Puis, là, il y a d'autres pratiques qui sont en dehors du contentieux, qui sont très intéressantes. C'est des demandes de classement faites par des États sur des parties particulièrement fragiles au point de vue environnement, des glaciers, etc. Il y a une procédure internationale qui est relativement intéressante, qui ne fait pas partie du contentieux. Alors, je voudrais vous démontrer assez rapidement, si j'ose dire, pour essayer de respecter les horaires au mieux, n'est-ce pas ? Je voudrais vous essayer de vous démontrer d'abord en quel sens il y a une révolution judiciaire dans les décisions de justice, les 700 dont on ne les a pas toutes vues, heureusement, mais 700 décisions, en quoi il y a une révolution ? Il y a une révolution sur l'application des règles de procédure et sur les règles de fond. C'est ça qui est assez révolutionnaire. Et quand il y a cette révolution, parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, comment peut-on, à un endroit déterminé, sur un tribunal déterminé, avoir l'audace de dire que ce que je vais dire représente l'intérêt supérieur de l'humanité ? C'est quand même quelque chose, il y a un saut qualitatif à faire là-dedans, qui est assez extraordinaire. Mais si on est d'accord sur cette approche possible, je vais essayer de vous démontrer comment, ça va nous poser la question de savoir s'il ne faudrait pas imaginer un jour, c'est la deuxième partie, imaginer un jour un tribunal ad hoc qui serait chargé de, comment dirais-je, de régler cette question du réchauffement climatique, non plus au stade national, mais au stade international. Et c'est l'expérience du tribunal Monsanto, que la plupart d'entre vous connaissent, qui a eu lieu, qui est un tribunal d'opinion, pas un tribunal civil, pénal, ni quoi que ce soit, un tribunal d'opinion, qui pourrait éventuellement, en s'inspirant de ce tribunal, on pourrait éventuellement élargir le contentieux climatique. Alors, je vais être assez bref, mais je répondrai à vos questions, bien entendu. En quoi y a-t-il révolution par rapport aux règles classiques de procédure? Et pour que ça marche, pour saisir un juge, il faut qu'il soit compétent. Il faut qu'il puisse prendre une décision qui ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs. Il faut que la personne ait intérêt pour agir et il faut que la personne aussi rapporte la preuve. Puis il faut penser aussi la dernière chose, c'est que la décision de justice doit être appliquée. Alors si elle vise le monde, évidemment, c'est un peu difficile d'imaginer comment elle peut être mise en vigueur. Donc on a des difficultés. Mais ce qui est très intéressant dans toutes les décisions, quelles qu'elles soient à proprement parler, il y a une audace extraordinaire du juge et une recherche d'adaptation très large et ouverte des règles de procédure, surtout sur la question de la compétence. Je n'ai jamais vu un tribunal se déclarer incompétent parce qu'on lui posait une question de justice climatique. Qu'on le prenne par le biais du recours pour excès de pouvoir en annulation, qu'on le prenne sur la responsabilité. Il n'y a pas eu d'incompétence. Il y a des tribunaux qui rejettent des requêtes, mais pour des raisons de fond. Deuxième observation, ce qui est très intéressant, dans le contentieux climatique, quand on veut obtenir quelque chose d'un État, il faut braver la séparation des pouvoirs. C'est ça la grande difficulté. Les Américains n'ont pas été jusque, dans toutes leurs décisions importantes, n'ont pas été jusqu'à donner des injonctions à l'EPA. Ils n'ont pas osé le faire, ils ne veulent pas se substituer à l'administration. Ils donnent les guides, mais ils ne se substituent pas. L'affaire Urgenda est quand même un des exemples intéressants de ce sujet à proprement parler. Encore une fois, elle est en appel. Il paraît qu'on attendait ça ces jours-ci, mais ce n'est pas arrivé. Mais vous avez surtout la décision la plus folle, la plus incroyable, magnifique, intéressante, qui est la décision Legari, qui a été jugée au Pakistan juste avant la COP21, dans laquelle il y a eu deux décisions en suivant, dans laquelle le juge a dit, bon, puisque c'est un agriculteur qui avait se plaint du fait qu'effectivement ces terres seraient envahies par les eaux à cause du réchauffement climatique, et je perds mon territoire, je perds mon métier, mes terres, ma culture, etc. Donc il y a une responsabilité. Il y a une carence de l'État de ce côté-là. Donc j'attaque. Et effectivement, l'État n'avait jamais rien fait. Ce qu'a fait le juge, c'est une audace folle. Il a nommé une commission qui s'est substituée au Parlement pour faire la réglementation et le droit. Alors, ça ne s'imagine pas dans tous les pays du monde. Mais c'est une sorte de perfectionnement, en quelque sorte, judiciaire, dans lequel le juge va jusqu'au bout à substituer, et remplacer l'État à proprement parler. Alors, les questions d'intérêt pour agir, je ne veux pas insister là-dessus, mais il y a très, très peu de décisions qui rejettent pour intérêt pour agir. Toutes les ONG, même une personne physique, ça suffit à proprement parler. Donc, on a un écartement des règles classiques de procédure. Ce qui accroche le plus fort, c'est effectivement la question de la preuve. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la preuve n'est pas la même dans le contentieux de la responsabilité pour carence. Et elle est effectivement, très difficile dans la question du contentieux contre les entreprises à proprement parler. Alors les parties dans toutes ces affaires-là, ils ne disposent que des rapports officiels. Ils disposent des rapports du GIEC en particulier, du rapport E2 qui est une étude relativement intéressante. Mais ce qui est très intéressant, je le développerai si vous voulez, et ce qu'on voit, c'est pour arriver à transcender cette question du lien de causalité, parce qu'il faut dire, quand on se plaint d'une chose ici, il faut montrer que ce qui est là-bas, il y a un lien de causalité direct. Alors, les grandes astuces, à proprement parler, ça consiste effectivement à ouvrir les concepts, ce qu'on voit dans certaines décisions, avec l'invention de deux causalités mises en œuvre par le juge national, soit la causalité générale, lien réel entre le facteur causant un dommage et le dommage lui-même, ou, plus exactement, quelquefois, la causalité individuelle traitant des facteurs et des dommages précis. Avec ce qu'on appelle aussi une approche dite flexible, les preuves étant basées sur la possibilité de la survenance du risque. C'est ça le fond de l'affaire. Il y a certains tribunaux qui sont assez audacieux et disent « mais il y aura du réchauffement climatique en 2050, en 2100, ben vous reviendrez en 2050 ». Et par contre, non. Effectivement, quand on prend le problème à sa base, effectivement, c'est de vérifier quel est le degré d'incertitude ou ce que j'appelle la probabilité d'une certitude. Donc cette question de la preuve étant réglée, reste la question du fond et du débordement. J'ai dit, rassurez-vous, je serai dans les 5 minutes, pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est le fond. Et sur le fond lui-même, c'est une adaptation du droit classique. Il y a 3 raisonnements qu'on retrouve dans les décisions de justice. D'abord le classique, le droit de l'homme, droit à la santé, droit de l'environnement, article 2.8 de la CEDH, etc. Vous retrouvez tout ça. Mais par contre, ce qui me paraît tout à fait intéressant et stupéfiant, on voit ça aux États-Unis dans la décision, dans une décision dont j'oublie le nom dans l'instant, je crois que c'est Julietta ou c'est quelque chose comme ça, je vous retrouverai dans 2 minutes. Dans cette décision-là, le juge va aller jusqu'à transcender effectivement le droit constitutionnel et à réinventer un droit fondamental. Il n'y a que si la vie n'existe plus et si le réchauffement climatique n'est pas combattu, la Constitution, ça ne nous intéresse pas. Dans cette affaire précise, effectivement, le juge américain est allé jusqu'à l'audace d'oublier sa Constitution. Le plus souvent, ce qui est jugé aux États-Unis, effectivement, c'est ce qu'on appelle le duty of care, c'est-à-dire l'obligation de faire du travail, faire un travail particulier, efficace. Et donc, nous avons effectivement une révision des règles de fond, une adaptation des règles de fond, effectivement, pour arriver à une décision prospective. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Je serai dans les 5 minutes, pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut utiliser ces concepts-là pour imaginer ce que pourrait être un juge international unique et construire sa jurisprudence. C'est-à-dire qu'il y aurait, en quelque sorte, un accueil possible s'il y avait un juge international à toutes les causes, comment dirais-je, environnementales qui touchent le réchauffement climatique. En mettant bout à bout la décision, on peut imaginer une décision complète. C'est un exercice possible. L'autre exercice possible, ce serait effectivement d'imaginer, et Corinne Lepage en parlera tout à l'heure, qu'on est passé dans des concepts de complètement différents, non plus de droit nécessairement à l'environnement, mais son corollaire, qui est dans ton travail, Michel, en particulier, qui est l'obligation et les devoirs à proprement parler. On n'est plus dans une logique de droit pur, une logique de devoir, effectivement, de respecter le niveau. Alors, j'ai imaginé, à la suite du procès Monsanto, qu'on pourrait utiliser la technique du procès Monsanto pour concentrer un procès climatique. Évidemment, il y a des inconvénients. Si on s'amuse à mettre M. Trump dans un procès climatique, il le mériterait d'ailleurs, largement. Plus que ça, ce serait, à mon avis, du droit pénal. Je n'ai pas d'hésitation, je le prononce publiquement. Pour moi, l'attitude est criminelle à proprement parler. Mais si on faisait ça, il faut faire attention, parce que la moitié des Américains seraient contre nous, effectivement. Et donc, il faut être nuancé et il faut être extrêmement attentif. Si on attaque, un certain nombre d'entreprises, mais il faut attaquer les autres aussi en même temps. Donc l'exercice est délicat, il est à mon avis théorique. De quoi s'agit-il de façon très simple? Dans l'affaire Monsanto, on a construit, enfin c'est les associations qui l'ont construit, notamment Marie-Dominique Robin, on a effectivement rassemblé tous les documents relatifs aux contentieux sur le glyphosate et sur le Roundup. On les a rassemblés, donc ces documents avaient vu le contradictoire, on les a rassemblés dans un lieu unique. Et on a demandé à des juges indépendants qu'est-ce que ça vaut, effectivement, les éléments soutenus par Monsanto par rapport aux grands principes de droit international. Droit à la vie, droit à la recherche scientifique, etc. Les décisions sont absolument passionnantes. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait autre chose qu'une consultation rendue par des juges indépendants. Je pourrais vous expliquer en détail qui étaient les juges, la vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, des juges en retraite de tous les continents, qui ont vu les pièces, qui ont donné un certain nombre de documents, qui ont rendu un avis de droit. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'à partir de cette doctrine juridique, elle redescend dans chaque État. Et ça permet d'élever le débat dans chaque État et d'avoir une vision unique des choses. Et c'est ça qui nous intéresse et je respecte le temps. Je vous remercie de votre attention.